et bienvenue à notre émission Dialogue, proposée par Aligre FM et animée d'ordinaire par un collectif dont je suis le résidu aujourd'hui. Ce collectif composé de Nathalie Perrin, Isabelle Raviolo, Paul Roussy, Michel Dias et moi-même, Christine Bessy. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Françoise Morvan. Bonjour Françoise Morvan.
Bonjour.
Et André Markovitch. Bonjour André Markovitch.
Bonjour.
Et nous vous recevons tous les deux pour présenter la maison des éditions Mesure que vous avez créée ensemble en 2019. J'ai oublié évidemment en ce début d'année de présenter ceux qui sont essentiels à une bonne émission de radio, nos techniciens Axel Aubry et Amazir Amadine Guest. Merci. Chère Françoise et André, merci beaucoup d'être là. L'émission va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, on va tâcher de présenter l'origine des éditions Mesure avec vous, Françoise. Dans un deuxième temps, nous allons établir une présentation de ce recueil de poèmes qui est à l'origine de votre maison d'édition. Et dans un troisième temps, on présentera, en faisant vraiment une coupe franche dans l'énorme travail que vous effectuez depuis des années, mais qui nous donnera bien sûr l'occasion de poursuivre, nous l'espérons beaucoup, ce travail ensemble. Donc le troisième temps sera consacré au premier volume de la quatrième saison de Mesure intitulée « Les enfants de la guerre ».
Très bien.
Alors, François, je vous présente et je vous donne très rapidement la parole. Françoise Morvan, vous avez passé votre vie à essayer d'échapper aux voies toutes tracées de la littérature, ce qui vous a amené à vous pencher sur les sources de la poésie du conte. D'où votre recherche sur le conte populaire et d'où le fait que vous êtes la cible depuis tant d'années des nationalistes bretons. Et ce qui n'a fait que redoubler après la parution de votre essai « Le monde comme si ». C'est aussi pour revenir à la source de la poésie que vous avez toute votre vie traduit et écrit des poèmes et des chansons pour les enfants, nous en écouterons une aujourd'hui, sans jamais séparer écriture et traduction. Et c'est pour la même raison que vous avez traduit des poèmes du Moyen-Âge. Vous avez fait redécouvrir les Lais de Marie de France, La Folie Tristan, qui sont publiés aux éditions Mesure dans la troisième saison. Avec André Markovitch, vous avez traduit tout le théâtre de Tchekhov, des chansons populaires de Bretagne, Les Grandes Complaintes et Les Guerts. Vous avez édité des auteurs oubliés comme Armand Robin et Daniel Colaubert, nés à Rostrenin comme vous. Je ne sais pas si je prononce bien Rostrenin.
Parfait.
Merci.
C'est rare d'arriver à dire Rostrenin comme il le faut.
Merci. Et donc, pendant que vous exploriez toutes ces voies, Françoise Morvan, vous avez poursuivi l'écriture d'un très grand livre qui efface les limites de la poésie et la prose. Et ce livre, il s'intitule « Sur champ de sable ». Et son centre est votre maison natale, qui est à l'origine, donc, non pas toute votre rêverie, mais toute votre création poétique. Pouvez-vous nous expliquer, Françoise Morvan, l'origine de la création de cette maison d'édition, l'origine de ce titre aussi, de ce pluriel ?
Alors, comme vous l'avez très bien dit, mon parcours est atypique. Alors, cette maison d'édition est totalement atypique, elle aussi. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez dit, pendant toute ma vie, depuis en fait l'adolescence, je me suis dit que j'avais envie d'écrire, c'est-à-dire de faire une recherche à partir des possibilités de l'écriture, et qui ne soit pas de la poésie, et qui ne soit pas du roman non plus. C'est un peu comme une manière d'objectiver le monde. Alors, j'avais pas du tout envie de faire une carrière littéraire. Je sais pas, un souvenir traumatisant pour moi, c'est quand ma mère m'emmenait au salon des écrivains bretons. Je lui avais dit, c'était des gros messieurs rouges, je sais pas, ils devaient boire beaucoup de muscadet, enfin, peu importe. C'est pas réservé d'ailleurs aux écrivains bretons. Mais je lui avais dit, en tout cas, compte pas sur moi pour devenir un écrivain breton. Donc c'est totalement réussi parce que je suis devenue l'auteur breton le plus haï à cause de mes critiques du nationalisme. Alors, un courageux organisateur d'un festival en Centre-Bretagne, donc près de Rostrenin, a demandé un jour à André, a proposé à André de faire un spectacle le 14 août. Donc je lui ai dit, 14 août, tout le monde sait, à Rostrenin du moins, que c'est le plus haut moment de l'année, c'est le moment de l'Assomption, on va monter sur la colline, on va faire un feu de joie qui va monter dans la nuit. Et du coup, je lui dis, ce serait intéressant de faire un spectacle qui permette de sortir du folklore. Enfin, moi, j'ai beaucoup de textes sur l'Assomption dans mon fameux recueil commencé à l'adolescence, donc. Et je lui dis, ce serait intéressant de mettre mes textes sur ce brasier, sur le feu, sur ce qui pour nous était avant même la Toussaint, le moment, le sommet de l'année, en somme. De le mettre en relation avec la tradition chantée, avec ses guerzios sur les sorcières, sur le feu, le rouge, des chansons endiablées, on peut le dire, qui seraient chantées par Annie Ebrel, qui est une des plus grandes chanteuses traditionnelles actuellement en Bretagne, et de mettre ça en relation avec Pasternak. Parce que Pasternak, c'est l'un des poètes les plus proches de ce que j'écris, et il a écrit des textes absolument extraordinaires à partir des sonorités et sur ces moments d'incandescence. Donc, le projet a été accepté aussitôt. Ensuite, on a le 14 août, soudain, je me suis rendu compte que ce projet complètement improbable, avec des textes que moi, j'avais jamais donné à lire, Pasternak, ça devait se jouer devant des paysans bretons, quand même, un public normal, je dirais. Et puis, et Annie Ebrel. Et donc, comme avec les nationalistes, j'ai pas le droit d'être sur scène en Bretagne, je n'y étais pas, j'étais dans la salle, enfin, dans la prairie plutôt. Mmh. Et il y avait au moins 300 personnes, et je pensais qu'ils allaient tous partir, mais pas du tout, ils sont restés. Et après, les gens me demandaient les textes. Ça les avait touchés parce que il était question de thèmes comme la fabrication du beurre, je sais pas, enfin, chose qui échappe totalement à la poésie, je dirais, française normale, mais qui pour moi est à la base de ma poétique personnelle. Donc, avec des gens qui me posaient enfin des questions, des gens normaux qui me parlaient d'une poésie normale. Enfin,
de la poésie de la vie.
Voilà, on était sur la même longueur d'onde, vraiment. Mmh. Et après, le spectacle a été repris au TGP, enfin partout sauf en Bretagne, bien sûr, et en Corse, enfin à Lyon. André et moi, ensemble, nous nous sommes dit, il faut qu'on ait quand même qu'on ait ces textes. Et bon, moi, j'étais pour faire une petite édition, pas chère, pour les gens qui en veulent. Et André a dit non, il faut sortir du circuit de l'édition de poésie, d'une part, et de l'édition commerciale, enfin de l'édition, tout simplement, de ce que ça devient actuellement. Et du coup, ce que j'ai écrit, c'est un ensemble de 4 volumes. Les 4 saisons de la vie, avec les quatre âges de la vie en fonction des saisons. Donc Assomption, c'est un été d'enfance, avec l'été qui se termine, et on sait qu'on va rentrer à l'école, qu'on va partir, et
que c'est avant
l'adolescence aussi. C'est toujours sur ces crêtes du temps, voilà, ces zones de partage. Et donc, comme il y avait 4 livres, on s'est dit, on va publier ce que aucun éditeur n'aurait fait, publier 4 volumes ensemble. D'abord, qui ne ressemble sincèrement à rien. Ensuite, qui ne s'apparente à aucun genre. Enfin, que moi, je n'ai jamais présenté, fait valoir ou quoi que ce soit. Donc, projet totalement improbable. Et là, son idée à lui, contrairement à moi, mon idée de faire de l'édition bon marché, c'est de faire des livres très beaux, en travaillant avec l'imprimeur, de choisir un très beau papier, un format qui nous convient à nous, en fait un format russe, et de ne pas les vendre plus cher que les livres qu'on trouve dans les librairies, donc 18 euros c'était, et de tirer, à l'origine on tirait qu'à 400 exemplaires, ce qui semblait déjà beaucoup, puisque la responsable des éditions Corti m'a dit « c'est extraordinaire quand on vend 150 exemplaires d'un livre, c'est vraiment un grand succès, il faudra payer de votre personne ». Je me suis dit « moi je suis incapable de payer de ma personne, surtout pour faire de la publicité ». De toute façon c'est complètement contre-productif parce que j'explique aux gens qu'il ne faut surtout pas les acheter et surtout pas les lire.
C'est une erreur, mais bon. Il faut se les faire offrir puisque vous savez, Françoise Morvan, que... C'est une personnes. Amie commune qui m'a offert votre recueil et c'est ainsi véritablement que j'ai découvert dans les mains le recueil Pluie. Cette amie, c'est une collègue de philosophie, Catherine Robert, on la salue, m'a offert il y a exactement un an ce recueil. Et je dois dire que c'est important de vous entendre parler de l'objet livre. Parce que c'est ce qui est très émouvant dans votre maison d'édition, c'est d'avoir d'abord des livres adressés personnellement, de les recevoir. Alors il se trouve qu'en plus, ces livres m'ont toujours été offerts pour l'instant. Voilà, je n'ai jamais eu à m'offrir des livres de Françoise Morvan et André Markovitch. Alors vous voyez, ça doit être ça le sens de votre publicité. Mais se faire offrir des livres.
C'est totalement ça, parce qu'André a inventé le système de la MAP.
Oui.
La MAP éditoriale.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens font comme les gens qui achètent des paniers de légumes. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais ils savent d'où ça vient. Et donc là, en fait, on est parti avec un petit tirage de 400 exemplaires. Je précise tout de suite qu'on en est à la 3e édition. Et donc, à chaque fois numéroté, signé et sur abonnement. Donc, les gens reçoivent, pour 100 euros, ils reçoivent chez eux 5 livres. C'est ça, tous les ans. Et tous les ans, je fais les illustrations aussi. Donc, je fais 5 images un peu complémentaires. Et vous avez complètement raison, parce que l'abonnement, c'est une forme d'amitié. Et la manière de circuler des livres, comme on ne veut surtout pas prendre de diffuseurs, ni de distributeurs, donc on fait un réseau d'amis. Des libraires qui nous soutiennent et des amis qui font connaître.
Oui.
Et donc on est hors circuit complètement.
Oui, et ça se diffuse, voilà. Enfin,
oui.
Ça, oui, la beauté se diffuse. Merci beaucoup, c'est très, très beau et... André Markovitch, pardon, nous ne vous avons pas présenté, nous avons parlé entre femmes.
Mais c'est très bien, et j'écoutais, c'est-à-dire, ce que Françoise a dit sur ça, moi j'ai rien à ajouter, c'est-à-dire que cette mesure est arrivée à une conjonction de moments. Le premier moment, c'est que moi j'avais toujours su que Françoise écrivait ça, j'avais lu quelques textes qu'elle avait publiés, mais il y a très longtemps dans la NRF, hein, qui m'avait vraiment, vraiment impressionné. Mais depuis, je savais qu'elle travaillait, mais elle ne montrait pas, donc je ne demandais pas. Et ça, c'était la première chose. Et puis, à un certain moment, Françoise est venue et me dit, mais voilà, je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, c'est lisible. Et ça, c'était déjà une chose essentielle. Et il s'est trouvé que c'est arrivé au moment où moi-même, j'avais décidé de quitter la Russie. j'ai jamais vécu en Russie, mais ma famille vient de là. Et à un certain moment, pour toutes sortes de raisons, j'ai acheté un appartement là-bas, à Pétersbourg. Et la vie faisait que c'était absolument impossible d'y rester, pour des raisons
qui sont révélées.
Qui sont trop actuelles maintenant, trop terribles. Et je me suis retrouvé avec un capital, en quelque sorte, pas grand, mais enfin quand même, et avec cette détestation de cet argent, qui était que je n'avais pas gagné, et que j'avais perdu. Et puis, je traduis aussi un poète américain, Charles Reznikov.
Bien sûr, la Jérusalem d'or.
Voilà. Et Charles Reznikov publiait lui-même, en numérotant ses exemplaires. Et on peut acheter, et j'ai, au fur et à mesure, toutes les éditions de Reznikov à la maison. Ce n'était pas compliqué, ça n'était pas très cher. Et donc, non, vraiment, tu pouvais acheter pour 20 euros une édition originale de 1920, quoi, un truc de fou, quoi. Donc, bref, on a fait ça ensemble, comme ça, comme une maison. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une maison d'édition, parce que, et pour Françoise, tout son travail vient de cette maison, au point qu'on en rigole, mais c'est pas drôle, et c'est tout à fait vrai que quand Françoise traduit la Cerisée avec moi, ça parle de la maison de Rostronin. Et pour moi, tout vient de cet appartement que je n'ai, enfin de cette chambre dans un appartement communautaire de Pétersbourg, Leningrad. Cette maison physique est devenue une maison, enfin en pierre en quelque sorte, est devenue une maison physique mais en papier.
Oui.
Et c'est ça qui, en fait, qui nous unit aussi dans cette aventure et qui de fait demande une approche un peu différente. C'est-à-dire que, bien sûr, on va en librairie moins que les autres éditeurs. Parce qu'on ne fait que des dépôts. On ne fait pas de dépôts, on travaille en vente ferme. Et puis on mélange les genres. On fait du théâtre, de la poésie, du conte, des traductions, des non-traductions, etc. Donc pour les libraires, souvent, c'est compliqué de classer, de savoir dans quelle case on met le livre.
Rayon.
Dans quel rayon on met le livre. Et puis... par abonnement.
Oui. Oui, et je dois dire, en vous écoutant, Françoise et vous, André, sur l'origine, à partir du spectacle, du théâtre, auprès la population locale, enfin les gens qui sont là, quoi, les gens du pays, eh bien, ça me touche beaucoup parce que je lisais cet été la saison 4 qui m'avait été offerte, enfin le quelques ouvrages, donc votre recueil de poèmes, André, Orbe, et puis en même temps L'Oiseau-Loup, et puis de l'autre côté, j'avais la correspondance de Pasternak avec sa femme Evgenia. Et donc, évidemment, ça parle beaucoup, hein, puisque je vois que c'est Pasternak qui est à l'origine, ouais, vraiment beaucoup de votre travail commun. Et donc, j'aurais aimé vous lire un texte de Pasternak que j'ai trouvé dans cette correspondance qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé vraiment en concordance parfaite avec votre travail. Bon, déjà, ce qui me plaît dans ce texte, c'est la provocation de Pasternak, qui n'est pas loin de la vôtre, toujours un peu, et qui est très malicieuse et sympathique. Et puis, tous les mots qu'emploie Pasternak qui désignent parfaitement vos éditions. Donc, ce texte, c'est une lettre à son fils, Evgenia, qui se piquait d'écrire de la poésie, puis à qui il conseillait plutôt de faire des sciences. Donc, une lettre du 27 juin 1954. Alors, je vous le dis, j'ai horreur de ce mot, poète, et des notions que recouvre ce mot. De même que je n'aime pas le mot violon, ni l'instrument lui-même, quand sa sonorité plaintive et pleurnicheuse n'est pas soutenue par l'harmonique d'un piano de l'orchestre ou de l'orgue. Dans la même mesure, l'activité d'un poète, si elle n'est pas en affinité ou en opposition avec la vision de son époque, si elle n'est pas complétée par un monde autonome qui se meut parallèlement et s'exprime dans la prose, si elle n'est pas éclairée par une philosophie qui s'est constituée de son côté et une vie qui s'est formée à sa façon, cette activité n'est pas menée à terme, elle ne ferme pas le cercle, elle ne donne en soi de contour à rien. Et elle reste quelque peu bancale, parmi des choses bancales et prétentieuses. Alors Françoise...
C'est merveilleux, c'est miraculeux. C'est absolument ce que moi j'ai voulu faire et ce qu'André aussi a fait. Et bah oui, c'est mon but, sortir de la poésie. Mais de ce que recouvre ce mot de prétentieux, précisément. Et là, ce qu'on fait avec André, c'est, en dehors de mes 4 premiers livres, puis Pluie, et ensuite L'Oiseau-Loup, ensuite les... Bon, moi, je continue à élargir mon cercle, mais ce qui est extraordinaire, c'est que... Enfin, pour moi, c'est de voir comment il s'élargit par les traductions que fait André. Parce que, surtout en ce moment où le fait de traduire des textes russes, c'est devenir complice de l'ennemi, pratiquement, pour certains. Hein. Donc là, quand André traduit Marina Tsvetaeva, quand il fait découvrir première édition au monde, Kari Ungsova, c'est une militante féministe assassinée par le KGB, quand il traduit Andreïev, ou là, une pièce complètement oubliée, c'est qui va être notre prochain titre, Les Juifs, donc, qui avait été un triomphe, mais qui a été complètement occulté depuis, on fait en quelque sorte de la résistance. C'est des gens qui sont morts d'avoir écrit de la poésie ou autre chose. Mais voilà, je dis que contre Staline, il y avait ces gens qui ont risqué leur vie. Et là, leur donner une voix et les mettre en relation les uns avec les autres, et puis avec quelque chose de, je veux dire, contemporain, puisque on est de ce monde, c'est donner aussi une autre signification. Et c'est pour ça que ça peut être un livre de photos, ou ça peut être un livre de théâtre.
Et une collaboration aussi avec des artistes, puisque dans la saison 3, il y avait aussi ce merveilleux texte d'André Bloch, Les 12, qui a été adapté aussi
par Christian Olivier.
Oui.
Oui.
Donc, oui, une grande résistance collective, tout de même, avec beaucoup d'artistes amis qui sont sensibles à votre travail. Peut-être, André, on pourrait vous écouter dire un poème de Boris Pasternak.
Душа моя печальница, а всех в кругу моем. Ты стала усыпальницей замученных живьем, тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лирую, оплакивая их. Ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь могильной урною, покоющей их прах, их муки совокупные тебя склонили ниц. Ты пахнешь пылью трупною мертвецких и гробниц. Душа моя скудельница, все виденное здесь перемолов, как мельница, ты превратила в смесь, и дальше перемалывай все бывшее со мной, как 40 лет без малого в погостный перегной. C'est un poème qui s'appelle Душа, l'âme, de 1956. Mon âme, печальница, enfin, triste, mais au sens comme une pleureuse, oui. Pour tous ceux qui sont autour de moi, tu es devenue la berceuse de ceux qui sont morts, torturés, vivants. Et elle dit, dans notre vie, shkurne, comment est-ce qu'on dit ça, une vie où on te massacre, toi, pour ta conscience et pour la peur, tu restes comme une urne tombale dans laquelle sont gardées leurs cendres. Voilà, ça dit ça. Их муки совокупные тебя склонили ниц. Leurs tortures accumulées t'ont fait courber la tête. Tu sens la poussière du cadavre, des morgues et des tombeaux. C'est le poème de... Voilà. Et дальше перемалывай все бывшее со мной. Et continue à moudre tout ce qui a été, tout ce qui m'est arrivé, comme pendant presque déjà 40 ans, pour le transformer en terre de tombeau, de terre de cimetière. Là, c'est Boris Pasternak. Mais ce qui était le plus étrange pour moi quand j'ai connu François, c'est qu'on a commencé à travailler sur Boris Pasternak parce qu'on a travaillé sur Armand Robin qui avait traduit des poèmes de Boris Pasternak. Et moi, je connaissais la langue, mais je ne comprenais pas les poèmes. Et c'est Françoise qui, à l'époque, sans du tout connaître la langue, m'expliquait les poèmes et me montrait que c'était absolument évident. Et ça a été le premier choc de... Enfin, pas le premier... Oui, un des grands chocs de ma vie où j'ai compris qu'en fait, tu ne traduisais pas une langue. Tu traduis une vie.
Oui.
Voilà.
Le problème, c'est que vous voyez les champignons en russe et vous les entendez en russe. Alors si on ne vous montre pas
mais
d'autres
oui,
champignons...
Mais absolument. Mais les mêmes, vous comprenez. Sraïeshka n'est pas une russule.
Oui.
Ça n'est pas du tout pareil.
Ni un mousseron.
Et un mousseron, pas de berlioz avec ce qui est sous les bouleaux. Un mousseron, ça n'a rien à voir. Enfin bon.
Oui. Alors merci Françoise Morvan d'avoir appris à André Markovitch à lire la poésie de Pasternak.
La question, c'est que nous n'avons jamais pu traduire un seul poème de Pasternak. En revanche, si... cet échec a été total et constant.
Et définitif.
Et définitif maintenant, c'est clair. Ça a permis à André d'inventer un genre. C'est-à-dire qu'il donne des spectacles. En fait, le spectacle demande comme décor juste une chaise et un traducteur dessus. Et comme il connaît tous ses textes par cœur, en fait, il les dit comme il vient de le dire, mais il le reprend. Il le déroule et il revient à l'intérieur du poème et il le redit pour finir. Les gens ont l'impression qu'ils l'ont entendu de l'intérieur en français. C'est
un miracle et je ne vous ai pas présenté André Markovitch, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de vous entendre soit dans une salle de classe de théâtre avec des élèves, soit dans une joute poétique avec Stéphane Hessel, soit dans de la lecture vivante, oui, matérielle du poème, où on entend la langue d'abord, on entend la langue d'abord. Et c'est très précieux d'entendre ce bruit de glaçons écrasés.
Mais voilà.
Oui.
Comme ça, les gens, ils ont l'impression qu'ils comprennent le russe.
Oui.
Et puis... parce qu'à force, tu expliques mot à mot, puis tu expliques... Aussi, quand tu traduis... quand tu fais une traduction, littéraire, en fait, tu ne peux pas traduire les sous-entendus de l'image.
Oui.
Tu sais pas, parce que c'est juste pas possible. Parce qu'aucun texte n'existe tout seul. Et donc, par contre, on peut en parler. Et donc, je pourrais vous raconter un poème de Mandelstam ou de Pasternak. Et on pourrait.
Mais volontiers.
Oui, mais on va prendre rendez-vous après.
On va faire plein d'autres choses. Après cette émission sur la présentation de mesures. Alors, on a parlé des quatre temps du Champ de sable, donc cet ensemble de recueils poétiques. Françoise, pardon. Et j'aimerais J'aimerais, avant qu'on entre précisément dans un recueil très précis, qui n'est pas Champ de sable, parce que j'ai décidé de m'attacher à Pluie, qui est ce premier recueil de vous qui m'a été offert et qui m'a beaucoup touchée. Mais j'aimerais vous entendre sur un poème de Brumaire, donc Auré. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire
pas
votre
problème.
Poème? Merci.
Pas de problème. Brumaire, alors l'ensemble des quatre volumes s'appelle « Sur champ de sable ». C'est un terme d'héraldique. Ça signifie « sable », en héraldique, c'est le noir. Donc « Sur champ de sable », il m'a semblé que ça condensait une image de la mémoire. On revient sur des choses qu'on a accumulées au cours de la vie. Et c'est un peu comme sur champ de sable, c'est comme un sable qui s'écoule et qui est en même temps comme un blason. Et c'est sur fond de nuit que les images se discernent. Donc Brumaire, c'est l'automne et c'est l'âge adulte. Et ça, c'est la fin du livre, enfin presque la fin. Donc ça s'intitule « Auré », puisque c'est une limite, et c'est en même temps la couleur dorée, l'or de l'automne, avec le tragique et en même temps cette espèce de douceur. Fumée de fan, jour pensif, soleil voilé sur les herbages. Un renard enfouit sa fourrure dans le roux des fougères et fuit en feu léger, enfin fiancé à sa puissance, vers l'orée embuée de bleu. Saison de chasse, saison matoise. Avoir payé si cher pour le passage et rester là, floué, mais souriant. Comme Ulysse au retour d'exil, s'il avait pu savoir son sort joué, sa gloire offerte au sel et sa fortune enfuie en fumée de sélage, mais jouir de ne plus savoir feindre.
Merci beaucoup.
Oui, il y a un auré, c'est parce que sur champ de sable, donc sur fond noir, c'est aussi la façon dont on peint les icônes sur fond noir. Et dans Auré, moi j'entends aussi Oran, celui qui prie.
Mmh. Oui, en espagnol, umbral. Umbral. L'Auré, c'est l'umbral, le seuil. Donc c'est le seuil de porte, c'est la lisière entre la lumière et l'ombre.
Voilà.
Et c'est le moment où on revient, on sait qu'on a perdu. Et voilà, c'est le sélage, c'était la plante mythique des druides. Donc la fumée de sélage, c'est rien. C'est à la fois toute la magie, toutes ces croyances, tous ces mythes qui en fait, c'est comme une pincée de sang, ça laisse rien. Mais jouir de ne plus savoir feindre, c'est un énorme avantage.
En effet, et pour avancer peut-être davantage dans cette vérité qui vous anime tous les deux, et aussi un profond souci de l'universalité, enfin rejoindre tous et chacun dans des lieux extrêmement précis, extrêmement condensés, un peu d'ailleurs comme les illustrations de toutes vos couvertures, l'impression comme ça d'un champ très très vaste qui se déploie à partir d'une focale extrêmement précise. De rencontrer un monde à partir de ce que vous dites être la lucarne de votre maison natale qui abrite toute une poétique de la rêverie de Bachelard, et je dirais cette attention aussi à une langue qui est complètement extraordinaire. Enfin, vous parlez du scellage. Alors moi, j'ignorais tout à fait ce mot, mais il y a énormément de mots que j'ai appris grâce à vous et que je me régale à répéter un peu, un peu mécaniquement pour me rappeler qu'ils existent. L'omuche, serfouir, la berce, cette plante aussi, la berce.
Ah bah, c'est une plante extraordinaire, mais tout ça, c'est banal.
Oui.
Je veux dire, la berce, c'est une mauvaise herbe.
Oui.
Qui a d'ailleurs, quand on a un jardin, et on a tendance évidemment à l'arracher. Et quand elle s'épanouit, on a cette odeur extraordinaire. Elle s'appelle la berce. En même temps, elle a une odeur d'étable, de lait. C'est comme les langes des bébés qui sont imprégnées de cette espèce d'odeur. Donc, c'est des mots qui forment à eux-mêmes une constellation, si on arrive à les mettre en relation avec...
Oui, des mots qui donnent à être et qui bercent, effectivement, vraiment qui bercent. Et donc, on va parler des enfants.
Et c'est exactement ça, Pasternak.
Oui.
Pasternak écrit exactement comme Françoise vient de le dire.
Mais 100 000 fois mieux.
Évidemment, bien sûr. Alors, on va parler plus précisément de votre travail avec les enfants, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez rencontré beaucoup de classes et vos poèmes ont été dits et adaptés en musique avec la voix des enfants. On va les écouter tout de suite.
Faisant claquer ses sabots de noisette, la fée qui court de flaque en flaque, sautille et joue comme à cligne une musette, puis on ne voit que la pluie sur le lac.
La nuit descend et l'on entend qu'on danse à pas menu entre les gouttelettes. Clic, ploc, un menuet mais sans cadence. Un bal de feu follet et fait follette.
Françoise Morvan, vous avez fait ce travail avec des enfants. Ce travail s'intitule Mistoufle. Voulez-vous bien nous en dire quelques mots?
C'est-à-dire, j'ai une marotte, mais c'est une marotte qui, depuis qu'on a parlé de ce que j'écrivais, se comprend. Il me semble que si les enfants n'ont pas l'oreille formée à la poésie dès leur plus jeune âge, c'est quelque chose qui se perd. Et en même temps, comme on travaille beaucoup avec des comédiens, on se rend compte qu'ils n'ont plus le sens de la forme, de la prosodie, de la langue. Donc j'ai publié des recueils aux éditions Mémo.
La saga des petits radis.
Oui. J'en ai publié 6, mais j'aurais de quoi en publier 20. Ce qu'il y a, c'est que ça, les instituteurs ne travaillent plus sur la poésie. Et donc, avec un jeune metteur en scène, David Gauchard, et une compagnie, l'Unijambiste, on a fait, encore une fois, comme pour mesure, on a pris les choses à l'envers. Il a, comme artiste associé dans des théâtres, il fait un peu quand même ce qu'il veut. À chaque fois, il va trouver une école, ça peut être dans un quartier complètement défavorisé, et il associe les parents et les enfants à la composition d'un CD. Et ce qu'on a entendu, c'est des enfants qui avaient créé la musique et qui avaient enregistré avec leur classe, dans la classe.
Oui, c'est magnifique.
Il y a 7 disques, on peut les écouter en ligne, c'est Les Mistoufles. C'est gratuit et c'est un travail de poésie fait, là encore, à la base. C'est-à-dire ce sont les enfants qui se sont pris de passion pour les poèmes et qui ont choisi d'interpréter ceux qui leur parlaient. Et en s'investissant dans un travail, parce que c'est long, c'est difficile, il faut être patient. Certains sont trop émus devant le micro, ils ont peur. L'un d'entre eux s'est mis à sangloter. Et puis ensuite, à la fin de l'année, je pense que ça, c'est la plus belle récompense que j'ai pu avoir. À la fin de l'année, il a dit tout doucement au metteur en scène, « J'ai beaucoup travaillé, maintenant, je ne suis plus le même. » Et il a dit son texte et chanté son texte comme les autres. Voilà, la poésie, c'est ça aussi.
C'est ça d'abord.
Ouais,
oui.
C'est vrai.
Bien sûr.
Voilà, et c'était collectif. C'est un travail collectif. Ça leur apprenait à écouter les autres. Et voilà. Donc ça, évidemment, on dit à travailler pour les enfants. Non, je ne travaille pas pour les enfants. Je travaille, c'est de la poésie. Mais prise dans la vie normale, c'est ça la question.
Et d'ailleurs, quelle honte y aurait-il à travailler pour les enfants? Enfin, n'y a-t-il pas qu'à travailler pour les enfants d'abord?
Je veux dire, nous avec André, faire de la traduction, c'est comme on lui a dit un jour, ça vous ennuie pas de n'être qu'un second couteau? Il y a un mépris incroyable pour la traduction. Et c'est pour ça qu'on ne sépare pas la traduction et l'écriture. Et d'autre part, de travailler pour les enfants, bon, elle s'intéresse au monde, bon, ça fait partie de tous ces trucs bizarres qu'elle fait, comme traduire des chansons bretonnes pour qu'elles chantent en français aussi bien qu'en breton. Personne comprend, mais bon, c'est d'autant plus intéressant.
Entre autres bizarreries, vous choisissez d'initier la 4e saison de Mesure avec un extraordinaire ouvrage de photos d'Yvonne Kerdudo. Et donc vous allez nous expliquer qui est Yvonne Kerdudo, Françoise Morvan, et de textes en prose ou en poésie qui font face à chacune de ces photos. C'est un livre très très fort dans lequel on entre vraiment très goulûment et vers lequel on revient et qu'on épuise très très lentement. Alors voulez-vous bien nous parler à la fois d'abord d'Yvonne Kerdudo, du fond de photographie et puis du travail immense de paroles que vous avez arraché à ces enfants, à ces photos. Vous avez fait parler ces photos d'enfants, vous êtes mis dans la bouche de ces enfants. Et c'est très beau.
Merci. Le travail sur les photos d'Yvonne Kerdudo, c'est exactement comme les Mistoufles. Je veux dire, on est à l'endroit où personne n'aurait pu se trouver. D'abord, c'est quelqu'un de... C'est, comme on dit, on parle de Pasternak, c'est quelqu'un de hors norme, extraordinaire, je veux dire, incomparable. Et là, on a tout simplement une infirmière qui s'installe à Bretonne, du Trégor, du nord de la Bretagne, et qui vient à Ivry et qui rencontre les frères Lumière, qui se prend de passion pour la photo et qui, on ne sait pas pourquoi, rentre dans un petit bourg de Bretagne, Plouaret, et en 1906. Et puis, va passer toute sa vie à faire des photos, je dirais banales. Enfin, ce qu'on attend, c'est des photos de mariage, des photos, des portraits.
Des photos de communion.
Communion, beaucoup de communion, bien sûr. la photo coûte quand même assez cher. Donc, c'est forcément, il y a quelque chose de très important derrière l'occasion. Même si c'est on pourrait dire d'une extrême banalité. La chose, c'est que ce n'est jamais banal. Là, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, Pascale Laronze, une metteuse en scène qui était dans ce bourg, Plouaret, et qui a acheté le fond de 22 000 plaques de verre qui étaient en train de se perdre dans un grenier. Elle a racheté tout ça. Elle a fait un travail collectif avec les gens qui venaient nettoyer les plaques de verre. Un travail de conservation. Elle a eu les pires ennuis, elle était complètement découragée, elle a lu mon essai Le Monde comme si, et elle est venue me parler de ce qu'elle faisait. Et donc, rencontre improbable entre cette extraordinaire Yvonne Kerdudo, personne taciturne, qui donc de 1906 à 1952 fait des plaques de verre, et puis quand la guerre de 14 éclate, eh bien, il y a beaucoup de familles. Le père se fait photographier avant de partir au front, tout triomphant. Et puis, les familles ou les femmes veulent laisser un souvenir au mari qui part pour quelques semaines. Hein. C'est une guerre qui ne va pas durer longtemps. Donc, c'est bien qu'ils partent avec la photo de ses beaux enfants en bonne santé. Et puis, pendant les permissions, le père revient et il se fait photographier, parfois mutilé. Le père est mort. Et donc, la femme, dans certaines circonstances, bien sûr, est fière que son mari soit mort à la guerre. Et donc, les enfants posent avec les médailles.
Beaucoup, oui.
Oui. Et puis, quand j'ai vu ce fond de 22 000 photos, je les ai toutes vues, hein. Je lui ai dit à Pascale Laronze, donc le metteur en scène, je lui ai dit, moi, je ne veux pas faire un travail ethnographique. Ce qui me frappe, c'est les visages des enfants. Et parce que finalement, tout ce que j'écris tourne autour de l'enfance. Et la manière dont les enfants disent le malheur de la guerre, c'est pas des photos académiques. Surtout quand l'enfant est terrifié par la photo, donc il pleure. Mmh. Et elle attend le moment où il est gracieux en pleurant. Je trouve ça, l'instant, c'est un travail complémentaire de ce que je fais. Et donc j'ai dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est les enfants de la guerre. C'est-à-dire un travail, donc je racontais tout, en 60 images, je raconte la guerre de 14 dans un bourg de Bretagne. Il n'y a pas un mot de plainte. Ça se termine sur un monument aux morts. On est en train de faire le monument aux morts. Donc, c'est glorieux. Et puis, après, il y a aussi autre chose qui est extraordinaire et qui, forcément, quand on a lu mes livres, comprend pourquoi ça me parle beaucoup. C'est que Yvonne Kerdudo a mélangé certaines plaques de verre. Elle a fait des surimpressions. Et donc, on a l'impression que la guerre est finie, tout le monde est content, c'est la gloire et tout ça. Et puis, il y a ces photos où on voit des visages perdus, le militaire, la femme, l'enfant. Voilà. Et puis, plus incroyable encore, c'est qu'elle va dans une maison, puis elle voit que les gens, par exemple, ont punaisé une photo sur une porte de grange, une vieille porte, voilà. Et donc, elle photographie la photo. où on voit le visage du militaire triomphant. C'est plus qui c'est. C'est le voile est tombé. Et ce que j'ai cherché, c'est en lisant parfois des lettres de poilus bretons, comme ça, à leur famille. Il y a des moments de poésie extraordinaires. Hein. La lettre la plus littéraire, c'est que j'ai reprise dans un livre. Que moi, j'aurais jamais osé écrire ça. Mais c'est un valet de ferme qui écrit à son patron, avec une amitié extraordinaire. Bon, voilà. Donc c'est...
Oui, il y a d'ailleurs une très très belle photo avec ce texte où vous identifiez la jeune fille de ferme qui est toute timide dans un coin. Je ne me souviens plus du titre de ce texte.
Chaque photo ça raconte une histoire.
Et donc, le postier qui arrive pour annoncer...
Qui annonce la mort.
Voilà.
Ça, c'est un poème que j'avais déjà écrit avant.
Oui.
Et du coup, les photos sont venues se mettre dans des textes que j'avais déjà.
Lisez-le.
Oui.
Mais là, la lettre du valet de ferme, je la lis.
Oui.
Les deux.
Du valet de ferme.
L'expérience et la pauvreté.
Il y a une lettre à la femme.
Oui.
Et il y a une page qui est rajoutée. J'ajoute cette lettre pour te dire comme je suis fière de voir sur la photographie prise par la dame la semaine passée l'image de notre étoile qui est plus belle que jamais et sage à plaisir. Ça, c'est à partir de là, c'est lui, c'était que c'est. Et sage à plaisir au point qu'elle est pour nous une amie. Et c'est une joie de la soigner comme de la voir au travail, tu peux être rassurée. Sa pouliche est digne d'elle et j'ai espoir que tu la verras d'ici peu. Mais à pas lents marche la guerre qui, avec son grand manteau noir, envoie chaque jour de l'ombre sur la misère, et longue est la patience. Ici, nous sommes aussi heureux qu'il est possible, et notre étoile est notre bonne étoile. Je finis sans finir de t'aimer de tout mon cœur, ton domestique qui pense à toi toujours.
C'est magnifique. Merci infiniment. Je pense à Walter Benjamin qui disait que la Première Guerre mondiale signait la fin du conte et la possibilité de transmettre quelque chose de ce monde disparu et de cette mémoire orale que vous avez conservée par votre travail.
Je trouve que c'est en relation d'abord avec la guerre actuelle.
Oui.
C'est aussi une manière de... C'est une protestation silencieuse, en quelque sorte. Et c'est en relation avec les chansons bretonnes, les Gwerzhou d'Annie Ebrel, chantées par Annie Ebrel, qu'on a traduites, et qui sont des chants de révolte, en fait, la révolte des femmes contre l'oppression. Et ça, c'est Yvonne Kerdudo. C'est le même endroit, c'est l'écho des voix qui n'ont pas de parole, qui ne sont pas entendues. Et là, c'est une manière de les faire entendre.
Oui, ce sont les mères des soldats, ce sont les épouses, ce sont les petites filles qui... joue avec des petits jouets à qui on demande de sourire.
Et qui ne sourit pas.
Et qui ne sourit pas, oui. Oui, vous le dites dans la préface, ces vies suspendues, le temps d'un cliché se sont perdues, sans le plus souvent avoir laissé ma main non. Elle compose une fresque où se lit la résistance à cette folie.
Oui, voilà, c'est...
Eh bien, il nous reste vraiment à vous remercier tous les deux pour cette transmission extraordinaire de toute cette mémoire, ces mémoires croisées, si vivantes.
Merci à vous. En tout cas, je parle pour moi, c'était très touchant d'entendre, en fait, finalement... les raisons qui font qu'on fait ce qu'on fait.
Et elles sont solides, me semble-t-il. Merci beaucoup, Françoise Morvan. Le mot de la fin, on le donne à Annie Brel, alors. Vous pourrez nous parler rapidement de Guardiana.
Anna, le gardien, c'est une guerz, c'est-à-dire une grande complainte que j'ai traduite parce que elle a une histoire très particulière et je l'ai découverte dans le fond d'archives de chansons recueillies par le père d'Anatole Le Braz. Donc, c'est donné par une mendiante et ça raconte l'histoire d'une femme qui va à un pardon et son père lui dit « N'y allez pas parce que vous allez avoir des grands seigneurs qui vont venir et ceux-là sont dangereux. » Et elle lui dit « Moi, j'ai pas peur, j'y vais, ça m'est égal. » Et donc, elle y va et voilà que le seigneur de... le pire des seigneurs vient et essaie de la violer. Et donc là, elle sort son bâton de sous son jupon, parce qu'elle se méfiait, et elle commence à l'assommer. Donc arrivent 17 seigneurs à la rescousse, et comme c'est une vraie femme de la forêt du Haut, près de Rostrenin, elle les assomme tous à tour de rôle. Donc après, elle est très embarrassée parce que elle dit, son père lui dit « Mais ma fille, qu'allez-vous faire? Vous avez assommé 18 seigneurs. J'irai trouver le roi de France. » Et donc, mais le roi de France la reçoit dans son palais, son Louvre, et elle lui dit « Voilà, je viens vous trouver parce que... on veut me mettre en prison à Guingamp parce que j'ai assommé 18 seigneurs. » Mais donc le roi de France, qui est prudent, lui dit « Adressez-vous à ma femme. » Et la reine de France écoute Anna le gardien qui lui dit « Mais pourquoi venez-vous me trouver ? Parce que j'ai assommé 18 seigneurs avec mon penbase. » Et la reine lui dit « Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Eh bien, c'est parce qu'il voulait me violer. » « Ah, vous avez bien raison, il ne faut pas se laisser faire. » Donc, il lui donne une lettre. Un message blanc, un message bleu, un message rouge. Et la conclusion de la chanson, c'est que...
Vous laissez pas faire.
Non.
Merci.
Donc Annie Hébrel l'a chantée. C'est moi qui ai découverte quand même.
Et nous l'écoutons.
Et on peut la chanter en français ou en autre.
Merci beaucoup. Françoise Morvan, merci beaucoup André Markovitch et nous vous retrouvons le 28 janvier avec Stanislas Netter pour présenter la poésie de Stanislas Netter. Bonne fin de journée à vous tous, nos auditeurs. Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci à vous.
Merci à vous.
À mes homeurs, à mes Morvan, à giver un autre ou une ango. Gwasan me heters o avro. Betro kandanini a garo, da leur neve me a yelo, mar bezon erien me a zanso, a ma neve ket me a gano. Gant brave portret zo eno, ma c'hoarez a da me zanso, notre ou mes hommes ou l'aîné, eux y bachik bien en décé. Me vachik bien din me l'arrêt, pi wer me het quand so eruet. Me het de gardien he wer ezé, zo bid hiriet de stol doué. Vid ma vie j'en bet de stol doué, ne glefen ket ont leur neve, glefen boud robert tro e chapello, a go lavar do vedeno. Me vachik bien din a laret, pe han o vegret deus ar mehet, nag e vehen an e zo anna, hag ar yo wank an mayanna. Deus tegeni a deus raktal, ma hin do goulen deus ansal, me mestrik pao mar em haret, me c'hoar vager ez er respet fer.